Chapitre 32.
Tout doux, Bijou. On veut juste discuter.
Promis Buddy Lee.
Ça tombe mal. Moi pas. Répliqua la jeune femme.
Tangerine?
Demanda Ike, et elle braqua le canon du fusil vers lui. Il remarqua alors que, si elle avait bien calé la crosse dans le creux de son coude et qu'elle agrippait la pompe de la main gauche, son index n'était pas posé sur la détente. Il examina la jeune femme, ses lèvres tremblantes, ses yeux qui n'arrêtaient pas de se déplacer de droite à gauche comme deux belettes enfermées dans une cage. Elle était terrifiée, tendue, sublime. Elle était beaucoup de choses, mais elle n'avait pas l'âme d'une tueuse. Ike savait à quoi ressemblait un tueur. Il lui suffisait de regarder dans un miroir.
« T'occupe pas de qui je suis !» répliqua Tangerine. « Contente-toi de remonter dans ton pick-up avec l'autre sosie ratée de Sam Elliott et foutelle camp d'ici !»«
C'est la deuxième fois qu'on me compare à ce gars-là, et pas de manière flatteuse !»
se plaignit Buddy Lee.
« Je vais finir par mal le prendre !»
Oh, je suis désolé, mon chou. Tu veux que je te donne le numéro d'un psy?
Isaiah et Derek ont tous les deux essayé de t'aider,
intervint Ike.
Isaiah était mon fils, Derek le sien. Ils sont morts à cause de ce que tu leur as dit. Nos fils sont morts par ta faute. Alors accepte de répondre à nos questions. Ça me paraît quand même la moindre des choses.
Tangerine frémit. Ike crut qu'elle tentait de l'amadouer d'un battement de cils, jusqu'à ce qu'il voie le mascara creuser deux sillons sur ses joues cuivrées. Il n'en pouvait plus des larmes. Les siennes, celles de Mia. Isaiah était l'étoile au centre de leur univers à tous les deux. Et lorsqu'il était mort, cette étoile s'était effondrée sur elle-même, créant un trou noir qui avait englouti jusqu'au dernier soupçon du bonheur qu'ils avaient pu connaître. Tout ça parce que cette fille devant lui avait eu une aventure avec un type prêt à tuer pour que cette liaison reste un secret.
Tangerine n'avait pas appuyé sur la détente, certes, mais elle était mouillée jusqu'au cou. Elle pouvait bien pleurer des larmes de sang. Il s'en fichait.
« Je pensais pas que ça irait jusque-là !»
sanglota Tangerine, dont le visage ressemblait à présent à celui d'un panda.
« Remballe ta pétoire et discute plutôt avec nous !»
l'encouragea Buddy Lee. Tangerine se mordit la lèvre. Ike regarda le canon du fusil à pompe se baisser petit à petit. Un coup de vent balaya la terrasse, les enveloppant temporairement dans l'odeur des magnolias.
« Entrez !»
finit-elle par céder.
« Je me sentirai mieux quand elle aura plus tangé entre les mains, »
murmura Buddy Lee à l'oreille d'Ike.
« Si elle comptait nous tirer dessus, elle l'aurait déjà fait. Si tu le dis. »
Ils franchirent la porte et furent accueillis par un parfum de whisky. Du vestibule, ils apercevaient un salon au milieu duquel trônait un canapé qui n'était plus de toute première jeunesse et qui faisait face à un antique tube cathodique diffusant des images à la résolution douteuse. Il y avait également une table, un cheval entre le salon et ce qui devait être la cuisine. Tangerine posa le fusil dessus.
« Qui sont ces gens, Terry ?»
s'enquit une femme apparut du tréfonds de la maison. Elle était grande, très pâle, avec des boucles d'un blond terne qui avait du mal à dissimuler ses joues molles, et elle portait une longue robe à fleurs délavées. Ike remarqua qu'elle était chaussée de tongs.
« Combien de fois il va falloir que je te répète que je m'appelle Tangerine, maman ? Et t'occupe pas d'eux, retourne te coucher. »
Le regard de la mère de Tangerine passa rapidement sur Ike, avant de s'attarder sur Buddy Lee.
« Mais propose-leur de s'asseoir, enfin ! Ce sont des invités. Je vais préparer des rafraîchissements. »
« Excellente initiative !»
commenta Buddy Lee.
« Lunettes, je présume ?»
Il lui adressa un clin d'œil qui la fit pouffer comme une adolescente.
« Ils n'ont pas l'intention de s'éterniser, maman. Bah, ils peuvent bien rester le temps d'un verre, non ?»
Le sujet clos, Lunette s'éloigna vers la cuisine, où Buddy Lee l'entendit fourrager dans les placards.
« Asseyez-vous !»
dit Tangerine. Ike et Buddy Lee entrèrent dans le salon et découvrirent un fauteuil et un repose-pied, en plus du canapé. Ils prirent place sur ce dernier, Tangerine sur le fauteuil. Ike observa alors le reste de la pièce. Il y avait un poêle à bois dans un angle et des photos accrochées au mur de manière aléatoire. Sur quelques-unes, on voyait Lunette jeune en compagnie d'un petit maigrichon à la peau cuivrée. Sur d'autres, on retrouvait Lunette avec quelques kilomètres de plus au compteur, aux côtés d'un enfant au regard pétillant et au teint hâlé. Ike nota que la distance qui séparait la mère du fils augmentait proportionnellement au nombre des années qui semblaient s'écouler entre deux clichés. Quant au petit maigrichon, il brillait par son absence sur les photos les plus récentes. J'ai prévenu Isaiah que j'avais changé d'avis et que je voulais plus lui accorder d'interview, commença Tangerine. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qui leur est arrivé a le moindre rapport avec moi ?
Des collègues de mon fils l'ont entendu dire que le type avec qui tu couchais était un salopard de première. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé Derek étendu sur le trottoir avec sa cervelle qui coulait dans le caniveau.
Répondit Buddy Lee. Et la violence de ces mots fit frémir Tangerine.
Ça te suffit comme rapport ?
Je les avais prévenus que c'était dangereux, mais Derek était hors de lui, et Isaiah était déterminé à aller jusqu'au bout. C'est pas ma faute, ils se rendaient pas compte des risques. Par contre, si vous croyez vraiment que leur mort me laisse indifférente, je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Porsche. Foutez le camp !
Écoute, intervint Ike, tout ce qu'on veut, c'est le nom du gars que tu fréquentais. Le reste, on s'en occupe.
Je vous le donnerai pas. D'ailleurs, j'aurais jamais dû parler de lui à Derek. J'aurais dû me contenter de prendre sur moi quand il m'a quitté. Depuis le début, je savais qu'il avait une vie compliquée. Mais bref, j'étais à une fête avec Derek, j'étais ivre et j'avais besoin de vider mon sac. J'étais chamboulé parce que je venais de me faire plaquer. J'ai eu tort.
Tangerine ressemblait indéniablement à sa mère, mais Ike trouvait qu'elle ressemblait encore plus au garçon sur les photos.
« Si tu refuses de nous donner son nom, donne-le au moins à la police, » dit Buddy Lee.
Ike se tourna vers lui. Il n'aurait pas été plus choqué s'il avait vu une seconde tête poussée sur l'épaule de son compère.
« Le plus important, c'est que les assassins de Derek et Isaiah payent pour leurs crimes, » précisa Buddy Lee. « La manière, on s'en fout. »«
Je suis désolé. Je veux pas être mêlé à ça, »
insista Tangerine.
« Mais tu l'es déjà !» s'exclama Ike. « Que tu le veuilles ou non, tu es le point central de toute cette histoire. Tu as tué mon fils et ton mari, et tout ce qui te préoccupe, c'est de sauver ta peau.
Écoute, papy, je sais pas si t'as remarqué, mais la seule personne qui s'intéresse à ma peau ici, c'est moi. Alors me mets pas tes problèmes sur le dos. Vous êtes là à me faire la morale au sujet de vos fils homo adorés. Pourtant, vous les traitiez comme de la merde quand ils étaient en vie.
Parle pas de ce que tu connais pas !»
tonna Ike, qui avait bondi du canapé, les poings serrés.
Tu crois vraiment que je sais pas de quoi je parle? Je suis sûr que tu passes ton temps à raconter aux gens à quel point tu aimais ton fils, mais en vérité, tu l'aimais pas dans sa totalité. T'aimais que certaines parties de lui. Et aujourd'hui, tu voudrais que je risque ma vie pour soulager ta conscience? Désolé, mais c'est pas mon job.
Ike fit un pas vers Tangerine. Pas intimidée pour un sou, elle leva la tête, un sourire aux lèvres.
Je vois très bien quel genre d'homme t'es, poursuivit-elle. Les types comme toi, j'en ai connu toute ma vie. Ça joue les durs, mais ça peut pas s'empêcher de mentir en baissant les yeux dès qu'il faut mentionner son fils et son... Comment vous dites déjà ? Ah oui, son colocataire.
Ike desserra les poings. Tangerine avait visé juste. Tellement juste qu'il se demanda une seconde si elle n'avait pas passé les 10 dernières années à l'espionner.
« Pas besoin de nous rappeler qu'on est des merdes, »
intervint Buddy Lee.
« Pour ça, on se débrouille très bien tout seul. Mais ça change rien au fait que nos fils sont en train de pourrir dans leur cercueil, pendant que ton petit copain continue à vivre sa vie tranquillement, tout ça parce que t'as la trouille. Je sais qu'il est à ta recherche, et tu le sais aussi. Mais est-ce que t'es au courant qu'il a engagé un gang de bikers pour avoir ta peau ? Tu te doutes bien que si on t'a retrouvé, c'est plus qu'une question de temps avant qu'il frappe à ta porte. » Alors viens avec nous. Si t'expliques aux flics ce qui s'est passé, ils pourront te protéger.
Personne peut me protéger. Toute cette histoire, c'est pas sa faute. Il a aucun contrôle sur la situation. Il y a des gens au-dessus de lui qui tirent les ficelles. Des gros bonnets pleins aux as et prêts à tout. Non, lui, c'est aussi une victime comme...
Si tu dis Isaiah et Derek, je te jure que ça va mal aller,
prévint Ike. Un jour, il m'a avoué qu'on attendait de lui qu'il se comporte comme un lion, et qu'un lion ne devait pas avoir de scrupules à tuer pour se nourrir. Toute sa vie, il a subi les pressions de son entourage.
Vous ne vous rendez vraiment pas compte du pouvoir de ces gens.
Pourquoi tu t'obstines à le défendre alors que sa seule obsession, c'est de te buter ?
Se récria Bodily.
Vous le connaissez pas. Vous savez pas ce qui doit endurer. Cette histoire va beaucoup plus loin que vous le croyez.
Il a tué mon fils. Le reste, je m'en fous. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de son nom,
dit Ike.
Voilà les boissons !
S'exclama Lunette.
J'espère que vous aimez les coups balibrés.
La mère de Tangerine entra dans la pièce munie d'un plateau en plastique avec 4 verres. Elle posa le tout sur le repose-pied et se mit à distribuer les cocktails.
Merci, madame, dit Buddy Lee.
Mais appelle-moi Lunette, enfin! Tu peux même m'appeler mon chou si tu veux,
ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Buddy Lee vida son verre d'un trait, tandis qu'Ike, le regard rivé sur Tangerine, semblait sur le point d'écraser le sien entre ses doigts. Tangerine but une gorgée, puis elle se tourna vers Ike, et cette fois, elle battit des cils.
Tu meurs d'envie de me taper dessus, hein?
Lui lança-t-elle.
C'est un truc qui t'excite?
Non. Je regrette juste que mon fils ait essayé de t'aider. Mais il était comme ça. Toujours prêt à voler au secours des autres, même de ceux qui n'en avaient rien à foutre de lui.
Très classe, la tentative de culpabilisation,
railla Tangerine, mais Ike sentit que le cœur n'y était pas.
J'énonce simplement les faits.
Au moment où Tangerine s'apprêtait à répondre, une portière claqua à l'extérieur. Ike se leva et un long frisson lui parcourut la colonne vertébrale.
« Eh ben, j'ai pas souvenir d'avoir eu autant d'invités depuis que ton père est parti !»
commenta Lunette en se dirigeant vers le vestibule, les glaçons dans son verre cliquetant comme des castagnettes.
« Qu'est-ce que tu fais, maman? Je t'ai déjà dit qu'on devait rester prudente !»
protesta Tangerine en attrapant sa mère par le bras.
« Bouge pas, je vais voir qui c'est. »
Ike remarqua que les gestes de Tangerine étaient mal assurés. Et il se demanda quelle quantité de rhum Lunette avait versé dans le coup balibré de sa fille.
« Non, c'est moi qui y vais »,
annonça-t-il. Il s'approcha de la lucarne située à gauche de la porte. À travers le verre crasseux, il vit une camionnette bleue garée de l'autre côté de la berline aux portières dépareillées. 3 motos l'accompagnaient, plantées sur leurs béquilles entre la camionnette et la voiture. 6 hommes armés avançaient vers la maison. Tous avaient une casquette vissée sur la tête.
« Tout le monde à terre !»
cria Ike. Mais Lunette dégagea son bras et se dirigea vers Buddy Lee d'un pas léger.
« Qu'est-ce qui lui prend à ton copain ?»
demanda-t-elle, un sourire aux lèvres. Malheureusement pour elle, c'est à cet instant que les hommes à l'extérieur décidèrent d'ouvrir le feu. Instantanément, un déluge de verre, de bois et de plâtre s'abattit sur l'entrée et le salon. Lunette vacilla en arrière, la poitrine et l'abdomen transpercés par plusieurs balles, avant de s'écrouler. Sa robe à fleurs était inondée de sang, si bien que les marguerites qui l'ornaient ressemblaient désormais à des coquelicots. Tangerine voulut se précipiter vers sa mère, mais Buddy Lee parvint à la ceinturer et à la plaquer au sol. Ike rampa vers eux. Il vit le corps de Lunette se recroqueviller et le verre s'échapper de ses doigts pour rouler sur le parquet. Il venait d'atteindre le pied de la table à manger lorsque la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. D'un geste, il attrapa le fusil à pompe et le braqua vers l'homme qui se tenait dans l'encadrement. Cheddar hésita, surpris de se retrouver nez à nez avec un canon de calibre 12. Ike visa à peu près la tête et appuya sur la détente. La moitié du visage de Cheddar s'évapora instantanément dans un nuage rose de chair, d'os et de tissu cérébral. Sa casquette s'envola pour retomber en virevoltant quelques mètres plus loin, tandis que son corps inanimé s'écroulait au milieu du passage. Ike actionna la pompe du fusil pour éjecter la douille vide et la remplacer par une cartouche neuve. Le deuxième homme sur la terrasse voulut se jeter sur le côté au moment où Ike braquait le canon de son arme vers sa poitrine, alors qu'un troisième avait déjà dévalé les marches pour filer se planquer vers la camionnette. Trop tard. Ike pressa la détente et le fusil aboya à nouveau. La volée de chevrotine atteignit Gremlin à l'abdomen, et le sergent d'armes se retrouva expulsé de la terrasse. 3 secondes plus tard, il était étendu au pied du perron et regardait hébété ses intestins se dérouler sur le gravier comme une guimauve fondue trempée dans du merlot. Ike actionna à nouveau la pompe du fusil. Mais cette fois, la douille éjectée ne fut pas remplacée. Le chargeur était vide.
Buddy Lee, tire, putain !
Hurla Ike. Buddy Lee passa la tête par-dessus le dossier du canapé derrière lequel il s'était réfugié avec Tangerine, dégaina le revolver qu'il avait toujours à la ceinture et ouvrit le feu sur les quatre hommes qui s'approchaient à présent de la maison en position courbée. Malheureusement, il visait plutôt mal. Il lui sembla qu'une des balles atteignit sa cible, mais les trois autres hommes eurent le temps de courir se mettre à couvert. Ike profita du répit pour aller récupérer l'arme des mains du cadavre dans l'entrée. Un pistolet mitrailleur. Un Uzi peut-être, ou un Mac-10. Il visa la camionnette et pressa la détente.
« Merde, merde, merde !»
s'écria Grayson, alors qu'une pluie de projectiles s'abattait sur la berline. Insensible aux éclats de verre et de métal qui lui fouettaient le visage, il appuya le canon de son Mac-10 sur l'angle du pare-choc et tira à l'aveugle en poussant un long hurlement de rage.
« Mon flingue s'est enrayé !»
cria Dom, qui avait pris position à côté de lui, mais Grayson l'ignora.
« Oh putain, mon ventre !»
gémissait Gremlin quelques mètres plus loin.
« Mon ventre !»
Ike se cacha derrière le montant de la porte, le temps de laisser passer l'averse de plomb, puis il répliqua jusqu'à entendre le clic lui annonçant qu'il était à court de munitions. N'écoutant que son instinct, il plongea la main dans la poche du mort et en sortit un chargeur neuf. Il n'avait plus manipulé d'armes depuis des années, mais ses doigts semblaient se souvenir de tous les gestes. En deux secondes, il avait éjecté le chargeur vide pour le remplacer par l'autre. Il lâcha alors une volée vers la berline au moment où Grayson passait la tête par-dessus le capot.
« Faites le tour par derrière et allez récupérer le pick-up !»
cria Ike en lançant les clés à Buddy Lee, qui les attrapa au vol avant de traîner une tangerine hurlante vers la cuisine.
« Et puis merde !»
s'écria Grayson en s'accoudant sur le capot, et il se mit à cribler de balles la façade de la maison, tandis que les douilles vides rebondissaient sur la tôle avant de rouler jusqu'au sol. Accroupi sous ce qui restait de la fenêtre à côté de la porte d'entrée, Ike attendit que le tireur recharge pour se redresser et répliquer. Il fit feu en continu en direction de la voiture, de la camionnette et des motos, jusqu'à ce que Buddy Lee soit au volant du pick-up. Grayson prit position derrière la camionnette et entreprit de lâcher une énième salve sur la maison. Il n'entendit pas le pick-up démarrer, mais il le vit faire demi-tour dans un nuage de poussière et lui présenter son pot d'échappement. Sans perdre une seconde, il se retourna pour tirer. Mais il eut à peine le temps de voir la lunette arrière voler en éclats, qu'un nouveau déluge de balles le forçait à se mettre à couvert. Un de ses hommes, Gage, rampait vers lui en se tenant la cuisse. En revanche, Kelso, le dernier membre de leur commando, était introuvable. Grayson, Gremlin et Cheddar étaient venus à moto. Dom, Gage et Kelso avaient pris la camionnette. Six frangins lourdement armés. Ça aurait dû être largement suffisant pour régler leur compte à un nègre, un pecno et une bonne femme. Mais une fois de plus, Grayson avait sous-estimé l'adversaire. Il commençait à en avoir ras-le-bol de commettre la même erreur. Buddy Lee força Tangerine à se plier en deux sur la banquette et enclencha la marche arrière, lorsqu'il sentit des éclats de verre lui tomber sur les épaules et se faufiler par le col de sa chemise.
« Putain de merde !»
grogna-t-il, en braquant le volant pour reculer vers la maison. Il entendit un hurlement lorsqu'une de ses roues écrasa les jambes du biker qui regardait toujours ses boyaux se répandre sur le sol. Mais il continua sa manœuvre. À peine eut-il immobilisé le pick-up, Kike jaillit par la porte d'entrée et sauta dans la benne en tirant une salve vers les deux hommes réfugiés derrière la camionnette bleue. Buddy Lee passa la première et percuta la berline, l'envoyant valser contre deux motos qui, en tombant, renversèrent la troisième. Après quoi, il fonça vers l'allée cabossée qui menait à la route. Une dernière volée chirurgicale et Ike fit exploser la lunette arrière de la camionnette ainsi que le pneu arrière côté conducteur. Grayson et Dom avaient fait le tour du véhicule pour ne pas se découvrir lorsque le pick-up s'était élancé comme un boulet de canon et ils étaient à présent accroupis au niveau du pare-choc avant. Grayson se redressa au moment où le pick-up disparaissait dans un nuage de poussière. Après s'être essuyé le visage du revers de la main, il constata que son avant-bras était luisant de sang et de sueur, et que de petits morceaux de métal s'étaient accrochés à ses poils. Ses tympans émettaient un gémissement continu. Dom se leva et s'approcha de lui, pendant que Kelso, qui s'était terré sous la berline, sortait de sa cachette en rampant. Grayson regarda autour de lui afin de prendre la mesure de la situation. Trois de ses compagnons étaient à terre. Cheddar avait rejoint le royaume des morts, Gremlin semblait sur le point de le retrouver, et Gage était en train de se vider de son sang.
« Je suis touché à la jambe, Dom !»
gémit ce dernier.
« Ça pisse le sang! Putain, ça fait tellement mal !»« Je vois mes tripes! Je vois mes tripes !»
répétait Gremlin d'une voix si faible qu'elle risquait de s'envoler au premier coup de vent. Dom et Grayson s'approchèrent de lui et constatèrent que la partie inférieure de son abdomen n'était plus qu'une bouillie de chair et d'excréments. Quant à ses jambes, elles ressemblaient à deux baguettes de pain façonnées par un boulanger aveugle. Si leur frère d'armes parvenait à s'en sortir, ce qui, à en juger par la mare rouge dans laquelle il baignait, semblait hautement improbable, il devrait sûrement chier dans une poche jusqu'à la fin de ses jours. Il ne pourrait jamais remonter sur une moto. Grayson savait que son compagnon ne voudrait pas d'une vie pareille.
« On peut pas le laisser comme ça », décida Grayson.
Il pointa son arme vers le visage de Gremlin pendant que Dom se tournait vers le soleil couchant. Seul le chant des grillons perturbait le silence.
« On se revoit en enfer, frangin », dit Grayson, et il pressa la détente.
Un staccato de coups de feu semblable au bruit d'un millier de clous lâchés sur un bureau en métal, puis Grayson jeta le pistolet mitrailleur à côté du cadavre de Gremlin. Il s'avança alors vers les Harley et essaya de relever la sienne, pour constater immédiatement qu'elle n'était plus en état de rouler. Le guidon était tordu, le réservoir percé, l'embrayage enfoncé, la selle éventrée et la roue avant ne ressemblaient plus à un O, mais à un D. Il reposa la moto.
« Bon, »
dit-il. Il était désormais convaincu qu'Andy était mort. Si l'idée que ces deux vieux en apparence inoffensifs aient pu avoir le dessus sur deux prospects lui avait d'abord paru tirée par les cheveux, il se rendait bien compte à présent qu'elle n'était pas totalement irréaliste. Il avait donc commis deux erreurs. Il avait sous-estimé ses hommes et il avait lésiné sur les moyens à mettre en œuvre pour s'en débarrasser. La première était de son fait, et il ne se la pardonnerait jamais. La seconde, en revanche, était imputable à un connard richissime qui ne s'était jamais sali les mains de sa vie. Alors oui, ce connard les avait payés, mais ça n'avait plus d'importance désormais. Ce n'était plus une question de business. Non, dorénavant c'était personnel. L'honneur de Grayson était en jeu, car s'il ne parvenait pas à régler leur compte à ces deux débris, il ne lui restait plus qu'à arracher son patch de président et à le jeter à la poubelle. Il n'arrivait pas à y croire. Cheddar était mort. Gremlin était mort. Gage risquait de subir le même sort. Sans oublier l'humiliation à l'entrepôt de jardinage du Noir. Grayson se frotta le visage. Alors que sa main s'attardait sur la cicatrice qui lui zébrait la joue, il se fit la promesse que c'en était fini des demi-mesures. À présent, il allait mettre le paquet.
« Dom, t'as une roue de secours là-dedans ? »
demanda Grayson.
« Ouais, enfin je crois. C'est la camionnette de ma femme, je l'utilise pas souvent. »« Qu'est-ce qu'on va faire des bécanes ?»
s'enquit Kelso.
« On va quand même pas les laisser là ?»
Grayson sortit un couteau de sa poche et se servit de la pointe pour dévisser toutes les plaques d'immatriculation avant de les jeter dans le coffre de la camionnette. Les flics vérifieraient peut-être les numéros de série, mais d'ici là, Grayson aurait déclaré les motos volées.
« Vous deux, récupérez les vestes de Cheddar et Gremlin, » ordonna le président. « Et ensuite, dépêchez-vous de changer la roue de la camionnette et d'allonger Gage à l'arrière. On a beau être au milieu de nulle part, on n'est pas à l'abri d'un voisin zélé qui aurait prévenu la police. Dès qu'on sera de retour au club, je convoque un conseil de guerre. Ces deux fils de pute savent pas ce qui les attend. »
Dom et Kelso échangèrent un regard inquiet en se balançant d'un pied sur l'autre. Pendant que Grayson s'éloignait pour récupérer son pistolet mitrailleur à côté de Gremlin. Quand le président se redressa et vit que ses hommes n'avaient toujours pas bougé, il les fixa avec une telle intensité qu'il s'en donna la migraine.
« Faut vous le dire en quelle langue ? »
rugit-il.